C'est vraiment la vision pour notre Église, que nous aurons une relation verticale avec Dieu, intime, intense, personnelle, qui se traduit dans une relation horizontale avec tous les gens autour de nous, avec nos frères et sœurs, avec notre famille, avec nos collègues, avec nos voisins, avec nos amis. Merci Seigneur. Nous avons commencé une série au début de l'été qui s'intitule « Je cherche à grandir ». Et je crois que j'arrive à la fin de cette série. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai fait une série avec plus que 10 parties, mais c'est un premier pour tout, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je veux parler du bonheur de partager. Amen. Dis avec moi, le bonheur de partager. Et le verset que je vais donner, c'est Actes chapitre 20, verset 35. On va retourner là dans un instant. Mais il dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous sommes en train de parler de devenir adulte en Christ. Et si vous voulez, reprenez votre Bible, levez-la, secouez-la un petit peu. On fait plaisir au Seigneur avec la Bible en main et on fait peur au diable. Et c'est l'heure pour vous de faire peur au diable. N'ayez plus peur au diable. Il est vaincu. La Bible dit qu'il est sous les pieds de Jésus. Et nous sommes dans le corps de Jésus. Si nous sommes dans le corps, même si nous sommes le petit orteil du pied gauche, le diable est sous, hein, notre pied. Amen. Dis ceci avec moi. Voici ma Bible. Je suis ce que la parole de Dieu déclare à mon sujet. Je possède tout ce qu'elle affirme. Et je suis capable de faire tout ce qu'elle me promet. J'aligne mes pensées, mes paroles et mes actions sur la parole de Dieu. Alléluia. Ainsi, je remporterai la victoire à la gloire de Dieu dans tous les domaines de la vie. Ce que je dis s'accomplit dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le bonheur de partager. Donc, je voulais vite faire une revue de notre thème pour cette année parce qu'on commence une nouvelle saison. Le thème pour 2013, c'était chercher, encourager, transmettre. Nous allons dire chercher parce que la vie chrétienne est active. Vous voulez rester là sans rien faire, on va vous trouver donc peut-être mort en quelques jours. Il faut se lever, il faut aller. Amen. Les proverbes ont beaucoup de choses à dire, oui, sur le paresseux. Amen. Et je n'ai pas trouvé quelque chose de bon à dire sur le paresseux. Amen. Assez dit? La vie chrétienne est active. Dis avec moi. La vie chrétienne est active. Nous avons dit encourager. Oui. L'encouragement est l'oxygène de l'âme. Et je crois, après que j'ai terminé cette série, ce peut la semaine prochaine, on va voir. Chaque fois que je pense que je suis à la fin, Dieu me donne encore autre chose et je ne veux pas finir avant que c'est la fin. Mais après, on va entrer dans une petite série sur l'encouragement. Ça vous va? Moi, j'ai ça dans mon esprit, oui, que Dieu désire vous encourager d'une façon peut-être comme vous n'avez jamais été encouragé avant la fin de cette année. Amen. Hallelujah. L'encouragement, c'est l'oxygène de l'âme. Ce que vous allez semer, vous allez recevoir. Encouragez les gens autour de vous. N'attendez pas que les gens vous encouragent. Encouragez les autres. On a beaucoup de gens qui sont là. Qu'est-ce que vous avez pour moi? Ça, c'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne active, c'est qu'est-ce que j'ai pour vous? Je suis très jolie aujourd'hui. Comme d'habitude, tu es une femme merveilleuse, n'est-ce pas? On sait quand une femme est aimée par son mari, n'est-ce pas? Parce qu'elle est belle. Et voilà la plus belle.
Yes!
Prends soin de votre femme, elle prendra soin de vous. Troisième, transmettre. La transmission de la connaissance est une puissance. Vous avez tous reçu quelque chose du Seigneur. Dis amen. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec cette chose? Si vous ne le partagez pas, vous pouvez même le perdre. Mais c'est tellement triste quand Dieu nous donne des dons, des talents, des capacités et on le garde pour nous-mêmes. Oui? Et nous attendons plus. Ouais, moi, je vous dis, vous ne partagez pas ce que vous avez reçu, n'attendez pas autre chose. Hallelujah. On a parlé de l'ADN de Victoire Centre Chrétien. En réalité, c'est la vision de Victoire Centre Chrétien, j'ai déjà dit. Passion pour Dieu, compassion pour tous. Nous avons passé beaucoup de temps, c'est toujours au-dessus de notre tête. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Vous êtes l'objet de l'affection de Dieu. La terre n'est pas le centre de l'univers. mais vous êtes le centre de la pensée de Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ça veut dire qui? Ça veut dire qui? Ça veut dire, dit tout le monde, ça veut dire moi. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle là n'est pas seulement une longueur de vie, parce que sachez ceci, peut-être vous l'ignorez, mais tout être humain, depuis sa conception, pas depuis sa naissance, mais depuis sa conception, est né pour l'éternité, pour tout le reste de l'éternité. Mais la vie éternelle, la vie, la zoé de Dieu, c'est une qualité de vie qui peut seulement être vécue avec une relation intime avec Dieu. Mais quand nous avons cette relation intime avec Dieu, nous pouvons avoir une relation intime avec les autres. Alléluia, vous êtes la prunelle de ses yeux. Aussi, Dieu nous a dit ça très fortement, que nous sommes une église pour toute la famille et une famille pour ceux qui en ont besoin. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il est bon, n'est-ce pas? Et nous avons appris que nous pouvons faire accomplir bien plus ensemble que tout seul. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tournez dans votre Bible, en Actes chapitre 20, verset 35. On va trouver où est marqué ce verset. Et c'est un verset un peu particulier parce qu'on nous dit que c'est les paroles de Jésus, mais ce n'est pas dans les évangiles qu'on trouve ces paroles. Paul nous dit ces paroles. Il dit que Jésus l'a dit, donc on le croit. Amen. Mais vous avez sûrement besoin de mettre la parole de Dieu en pratique et vous saurez tout de suite que ça vient de Dieu. Parce que la parole de Dieu marche. Écoutez-moi bien, la parole de Dieu fonctionne. Si vous mettez la parole de Dieu en pratique dans votre vie, elle va produire chaque fois ce qu'elle a promis. Dieu dit, Jérémie 1, 12, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Donc vous mettez la parole en pratique, Dieu va assurer que ça va devenir réalité. Qu'est-ce que Paul dit? Actes chapitre 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir le faible et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le bébé, et nous sommes tous nés bébés, autant naturel, ouais, autant biologiquement, autant spirituellement, nous naissons bébés, n'est-ce pas? Mais naturellement, on n'est plus bébé, comme Maïlia m'a dit qu'elle allait en grande section de maternelle. Oui. Et William, il va à la maternelle, mais où passe le temps? Oui. Il ne faut pas tourner le dos, les parents, parce que vos enfants vont se marier. Ils étaient petits un moment et ils se marient maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? 1 Pierre 2, 1 et 2. Il faut que nous décidons, que nous cherchons de grandir dans le Seigneur. Un bébé, il est le centre de son propre univers, il pense qu'à lui. C'est j'ai faim, j'ai soif, je suis sale, j'ai besoin d'être changé. Ouais. C'est ça? Vous savez, les bébés, j'ai fait une licence en psychologie, je connais un petit peu sur les bébés et j'en ai eu deux. Ouais. Ouais. Ma femme les a accouchés, mais moi, je me suis occupé. Ouais. Dès le départ, je me suis occupé d'eux. C'est pourquoi j'ai une telle bonne relation avec eux aujourd'hui. Mais un bébé pense que vous n'existez pas hors de sa présence. Vous quittez le bébé, ouais, et vous pouvez même cacher votre visage derrière vos mains et faire « Peek-a-boo !» Et vous avez disparu de l'existence et vous êtes, et le bébé, il va rire pendant des heures. Jusque vous n'en êtes plus, n'est-ce pas? Un bébé croit que les autres sont là pour lui. Bébé spirituel, c'est pareil. Vous n'existez pas, vous êtes seulement là pour prendre soin de moi. Et vous savez, c'est magnifique un bébé. Mais pas après le 3e ou 4e ou 5e année. N'est-ce pas? Et nous désirons, nous cherchons à grandir. Amen. 1 Pierre 2, 1 et 2. Il dit comment nous pouvons tous assurer la croissance. Il dit « désirez comme ». Des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Que ce livre, la parole de Dieu, devient votre livre. Que cette lettre que Dieu a écrite devient votre lettre d'amour. Oui, que vous prenez du temps tous les jours à en lire, à méditer. Oui, à déclarer, à vivre, à mettre en pratique ce livre parce que vous allez grandir. C'est impossible. Peu importe d'où vous venez, de quelle culture, de quelle famille, de quel niveau intellectuel ou d'éducation vous avez eu, si vous travaillez avec cette parole va faire de vous un adulte. Hallelujah. Si vous ne travaillez pas, vous allez rester là où vous êtes avec les mêmes problèmes et vous allez tourner en rond. Et nous sommes pasteurs depuis 28 ans et j'ai vu les gens depuis 28 ans à qui j'ai dit « Lis la Bible !» qui ne lisent pas. Ouais, et je les vois, je les retrouve et ils sont toujours dans les mêmes pétrins, ouais, qu'il y a 28 ans. Et je vois d'autres personnes qui peut-être avaient beaucoup moins de personnalité, de caractère, même peut-être de dons, mais qui ont décidé de donner place à la parole, qui aujourd'hui qui sont établis et qui sont des sources de bénédiction et leurs problèmes sont lointains derrière eux. Ils ont traité leurs problèmes de caractère et de personnalité et ils sont devenus des bijoux pour le corps de Christ. À vous de choisir. C'est certaines choses que je peux faire pour vous, que nous en tant qu'Église nous pouvons faire pour vous. Mais une chose qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas lire la parole de Dieu pour vous. On ne peut pas la mettre en pratique. Et vous pouvez écouter aujourd'hui par Internet tous les meilleurs prédicateurs du monde. Oui, vous pouvez les regarder à travers le monde, les gens. Mais si vous ne pénétrez pas dans la parole de Dieu et vous ne le méditez pas, votre vie ne va pas bouger. Vous allez agrandir votre cerveau, votre connaissance des choses, mais votre cœur va rester tout petit. Et Dieu veut que votre cœur grandisse. Parce que c'est à travers le cœur qu'on gagne dans cette vie, pas à travers la tête. Les gens les plus grands intellects du monde, oui, ne gagnent pas dans la vie. Une histoire d'un avion qui va aller crasher et il y a trois parachutes qui restent pour quatre personnes. Vous avez entendu cette histoire? Oui. Et donc, il y a un chirurgien, oui, dont de grande renommée dit, les gens ont besoin de moi, il prend un parachute et il saute. Et l'autre dit, moi, je suis un des hommes les plus intelligents du monde. Je peux expliquer les algorithmes et les choses comme ça. Et il prend un autre et il saute. Et après, il reste, oui, un évêque. Oui, et un petit garçon, l'évêque dit, mais moi j'ai vécu ma vie, j'ai plus longtemps à vivre, je suis béni de Dieu, vous prenez le dernier parachute. Et le petit garçon qui a 10 ans, il dit, ah non, il y a deux parachutes qui restent, monsieur. Il dit, comment deux? Il dit, l'homme le plus intelligent du monde vient de sauter avec mon sac à dos. Nous ne gagnons pas dans la vie à travers notre grand intellect. Nous gagnons dans la vie quand nous faisons gonfler et grandir notre cœur avec la parole de Dieu. Amen. Ça valait la peine de venir, n'est-ce pas? Regardez avec moi en Hébreux chapitre 5, verset 12. La parole de Dieu est là pour nous enseigner, mais la parole de Dieu est aussi là pour nous corriger. Et si vous vous permettez de lire la parole de Dieu, ça va vous corriger là où vous faites des erreurs. Et soyons assez intelligents que quand on fait des erreurs, on veut être corrigé. Amen. Pourquoi? Pour ne plus faire les mêmes erreurs pour le reste de notre vie. Hébreux 5, 12. Paul, l'auteur d'Hébreux dit très clairement, vous en avez fait qu'il y a depuis longtemps, vous devrez être des maîtres. Vous devrez être en train d'enseigner les autres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des ordres de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. C'est costaud ce qu'il dit là. Il dit, oh, quiconque, verset 13, honnête au lait n'a pas expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Intéressant, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 10 et verset 8. Le bonheur de partager. Matthieu 10, verset 8. Vous rappelez, on a lu à plusieurs reprises 1 Corinthiens 13, 11, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Si vous dites, mais je ne sais pas si j'ai encore enfant, j'ai un adolescent, mais agissons comme des adultes. Moi, j'ai fait avec Laura beaucoup, beaucoup de comptes des jeunes et des choses avec les enfants. Et tu as toujours un enfant qui n'est pas exactement au tranche d'âge. Tu sais, tu dis, c'est les 10 à 15 ou c'est les 12 à 17 ou quelque chose comme ça. Il y a un enfant qui arrive et dit, en 6 mois ou en 1 an, j'aurai là, est-ce que je peux venir? Vous savez, j'ai toujours dit ceci comme ça. Je dis, mais il faut avoir entre 10 et 15 ans. Est-ce que tu peux agir comme un enfant de 10 ans? Mais dis, est-ce que tu vas agir comme un bébé? Parce que si vous agissez comme un bébé, vous ne pouvez pas venir. Mais si vous pouvez agir comme un enfant, et oui, 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 oui. Et vous savez, normalement, ces enfants sont les meilleurs. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours tellement être grands. Oui. Et c'est exactement ce que vous et moi, on a besoin de faire. Et peut-être on n'est pas arrivé à cet état d'adulte, mais agissons comme si nous sommes. Amen. Qu'est-ce que Jésus dit? Il est en train de donner des ordres. Matthieu 10, verset 8, il dit, guérissez les malades. Ressuscitez les morts, purifiez les lèpres, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et moi, j'entends les gens dire, ah, mais ça, c'est pour les pasteurs. Moi, je suis un simple chrétien. Vous avez vu le mot simple où dans la Bible? Moi, j'ai jamais vu un mot qui parle de simple chrétien. Il y a chrétien ou il n'y a pas chrétien. Oui, oui. Moi, j'étais en train de lire dernièrement l'épître aux Galates et ils sont retournés dans la loi. Ils disent, oui, ce n'est pas être circoncis ou incirconcis qui est quelque chose, mais c'est d'être une nouvelle création. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a rien de simple. Oui? Nous sommes créés à l'image de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Oui? Certaines versions disent quand c'est quelque chose qui n'a pas existé auparavant. Ouais? Toute chose est devenue nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Hallelujah. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Qu'avons-nous à donner? Parce qu'il y a un bonheur de partager. Qu'est-ce que nous avons à donner? Moi, je dis, si on n'a pas d'autre chose, nous avons la bonne nouvelle à donner. Est-ce que vous avez une bonne nouvelle à donner? OK, donc je vous pose une question. Et vous aurez un devoir à faire cette semaine. Pour vous, c'est quoi la bonne nouvelle? Quand les gens vous demandent, mais vous allez à cette église, pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Mais vous êtes chrétien, pourquoi? C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi? Est-ce que vous pouvez le dire? Parce que vous savez, si vous faisiez partie d'un secte, oui, le secte vous dirait, vous devez croire comme ça, et quand on vous pose cette question, il faut que vous répondez comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une relation personnelle avec Dieu. Amen. Mais en tant que chrétien, on ne peut pas vous dire qu'il faut répondre comme ça. Pourquoi? Parce que pour chacun de nous, nous avons vécu quelque chose avec Dieu et nous allons répondre différemment. N'est-ce pas? La bonne nouvelle pour moi, c'est, je vous donne quelques exemples bibliques, d'accord? Luc 17, 21. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu vivre au milieu de nous. Il est venu vivre en moi. Bonne nouvelle. Amen. J'étais seul. Je n'avais pas, savais pas pourquoi j'existais. Et j'ai invité Jésus d'entrer dans ma vie. Et je sais pourquoi j'existe. Amen. J'étais vide à l'intérieur. Il est entré en moi et je suis rempli. Jean 9, 25. C'est quoi la bonne nouvelle pour vous? On a demandé à quelqu'un qui venait d'être guéri. Et il dit, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Merveilleux témoignage, n'est-ce pas? Parce qu'il a vécu quelque chose. Avez-vous vécu quelque chose avec Dieu? C'est quoi la bonne nouvelle? Qu'est-ce que Dieu a changé dans votre vie? Un autre, regarde avec moi. Actes 26, 17 et 18. Ici, Jésus parle à Paul. Et je trouve que c'est l'évangile, ouais, la bonne nouvelle, donc d'une façon concise, extraordinaire. J'aime ces versets. En Actes, chapitre 26, j'y tourne aussi. Versets 17 et 18. Absolument magnifique. C'est quoi la bonne nouvelle pour vous? Jésus parle. À Paul, il dit, je t'ai choisi au milieu de ce peuple et au milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu les ouvres les yeux. Est-ce que vos yeux sont ouverts? Hallelujah. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Est-ce que ça vous est arrivé? Oui. Et de la puissance de Satan à Dieu. Moi, je pense qu'il manque un mot là. Il parle de la, il passe de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Amen. Hallelujah. Pour qu'il reçoive par la foi en moi, quoi? Le pardon des péchés. Est-ce que c'est pas la bonne nouvelle? Qui ici a eu leur péché pardonné? Est-ce qu'il y a des pauvres pécheurs ici? Oh, j'espère pas. J'espère que vous ne vous voyez plus comme des pauvres pécheurs. Parce que nous sommes justifiés, oui, en Jésus-Christ, comme si nous n'avons jamais péché. Si vous vous rappelez de Dieu, oh, je m'appelle, j'ai péché. Et Dieu va dire, non, j'ai pardonné ça, je ne me rappelle pas. Justifié, ça veut dire comme si je n'avais jamais péché. Sans aucun complexe d'infériorité, sans aucun culpabilité ou condamnation. Hallelujah, nous ne sommes pas des pauvres pécheurs, nous sommes des riches chrétiens. Oui, ça c'est la bonne nouvelle. Il m'a pardonné de tous mes péchés. Et ça ne s'arrête pas. Et l'héritage avec les sanctifiés. Et là, il faut que je fasse attention. Parce que si on commence par avec notre héritage en Christ, on ne finira pas. Amen. Oui, parce que nous ne sommes pas seulement sortis d'Égypte, de l'esclavage. Nous sommes entrés dans la terre promise. Amen. Oui, où coule le lait et le miel. Où il y a une abondance. Oh, hallelujah. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Regardons Jésus pour l'instant. Matthieu 9, 35. Oh, hallelujah. J'ai perdu Matthieu. J'allais dans la mauvaise direction. Ah, voilà, il est là. Matthieu 9, 35, voilà. Résumé du ministère de Jésus. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour eux. Amen. Mais il dit que Jésus enseignait, Jésus prêchait, Jésus guérissait. Amen. C'est le ministère de Jésus. Jésus donnait. Amen. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Jésus nous a donné deux mandats. Et je reviens là-dessus et je vais continuer à venir là-dessus. Parce que si nous avons deux mandats, c'est les deux mandats qui sont les plus importants. Le premier, c'est d'aller par tout le monde et prêcher l'évangile. Amen. Marc chapitre 16, verset 15 dit, puis il leur dit, c'est après sa résurrection, allez par tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voyager? Est-ce qu'il y a des gens qui voyagent déjà? Si vous faites partie de cette église, procurez-vous un passeport. Impossible de faire partie de cette église longtemps et pas avoir un passeport. Pourquoi? Parce qu'on va vous donner envie de voyager et vous pouvez voyager pour les affaires, vous pouvez voyager pour visiter la famille, mais vous pouvez voyager aussi en tant qu'ambassadeur de Christ. Et prêchez l'évangile quand vous êtes en affaires, quand vous êtes en visite avec la famille, mais sachez ceci, cette église est appelée d'aller vers les nations. Amen. On peut constater chaque dimanche combien de nations sont représentées. Amen. Nous sommes appelés d'aller vers eux. Amen. C'est pourquoi on vient à l'église samedi, dimanche, mardi soir. On vient dans les groupes de maison, on vient dans les rues de prière pour être rempli de quelque chose, pour qu'on puisse offrir quelque chose aux autres. Amen. Prêcher l'évangile, c'est le premier mandat. Deuxième mandat, c'est faire des disciples. Ce n'est pas bon de faire naître des bébés, oui, si nous ne sommes pas prêts à aider ces bébés à devenir, oui, adultes, devenir disciples du Seigneur. Matthieu 28, 19 dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, je ne sais pas si on souligne assez l'importance du baptême d'eau, mais si vous n'êtes pas encore passé par les baptêmes d'eau, mais vous avez fait de Jésus votre Seigneur et Sauveur, moi, je vous conjure. Oui, Jésus l'a fait. Oui. Vous devez le faire. Amen. C'est pour tout le monde. C'est un témoignage, un tremplin pour votre foi de dire, de déclarer devant le ciel et devant l'enfer, devant les hommes, devant les amis, j'ai pris ma décision. C'est mon témoignage extérieur de ce que Dieu a fait dans ma vie. Moi, j'encourage tout le monde, oui, à se faire baptiser. Amen. Deux mandats. Oui, prêcher l'évangile, faire des disciples. Je veux vite parcourir quelques écritures en Actes des Apôtres. Parce que nous avons une vision, oui, et de me parler encore très fort de cette vision. Nous avons une vision de voir se multiplier cette église. Amen. Nous avons vu des belles choses cette dernière année, deux ans. Mais Dieu nous a dit qu'il y a bien plus à faire. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'être un phare dans cette ville, dans cette région, dans cette nation, dans la francophonie et à travers le monde. C'est ce que Dieu a dit. Moi, je n'ai pas inventé cela. Et j'ai fait une petite étude, je veux faire ça avec vous vite. On parcourt 5 écritures dans les Actes des Apôtres. Ouais, en Actes chapitre 1, 8, il dit, « Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins. » À Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En Actes chapitre 2, il reçoit le baptême du Saint-Esprit, la Pentecôte, et à la fin du chapitre, quelque chose se passe parce qu'il y avait un petit groupe des gens tremblants, 120 dans la chambre haute, qui sont allés dans la rue. Et en Actes chapitre 2, verset 47, après que Pierre prêche, il dit, louons Dieu et trouvons grâce, je veux dire quelque chose là, louons Dieu, nous commençons nos célébrations avec la louange. On essaie toujours de lever la tête avant de demander quoi que ce soit, avant de nous occuper d'autres choses. On essaie d'assurer que nous savons à qui nous sommes adressés, pourquoi nous sommes venus. Amen. Et j'aime la communion fraternelle autant que vous. Mais je veux commencer d'abord et dire, Dieu, tu es premier dans ma vie, dans cette église. Il dit, louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ça fait combien par an? Combien? Il y a 365 dans votre année, des jours? Oui? Qui croit que nous puissions voir ajouter à l'église 365 personnes chaque année? Ça fait grandir, n'est-ce pas? Nos idées. Vous imaginez d'ici l'année prochaine, septembre prochain, nous avons 365 personnes ajoutées à l'église, pas sauvées, ajoutées à l'église? Vous êtes prêts? Actes chapitre 5, 14, je vais vite. Le nombre de ceux qui croient au Seigneur. Hommes et femmes augmentaient de plus en plus, et ce mot est très important là, il y a un mot que j'aime beaucoup, il s'écrit, il s'appelle H-O-M-M-E-S. Il n'y a aucune parole dans la Bible qui est là par erreur. Il dit le nom de ceux qui croient au Seigneur, hommes et femmes, augmentaient de plus en plus. Qui est content que nous avons des hommes dans l'église? J'ai entendu que les femmes. Est-ce qu'il y a des messieurs là? Vous entendez pas, messieurs? Il y a les hommes ici?
Oui!
Ça, c'est mieux. Merci. Dieu veut que son église soit remplie d'hommes et de femmes. Amen. Ce n'est pas une affaire des femmes chrétiens. C'est une affaire des hommes et des femmes. Oh, j'aime ce verset. Actes 6, 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup. À Jérusalem, et une grande foule des sacrificateurs obéissaient à la foi. Des gens peut-être le plus difficiles, les érudits, les intellectuels, sont venus au Seigneur. Hallelujah. Il y a des hommes, des érudits, des intellectuels, des hommes riches, de cette ville de Nice et dans les alentours, qui vont venir au Seigneur. Et ils vont nous aider à accomplir ce que Dieu nous a mis dans notre cœur. Amen. Actes 9, 31. L'Église était en paix. Gloire à Dieu pour la paix. Je proclame la paix sur vous, dans votre appartement, dans votre lieu de travail. Nous sommes des ambassadeurs de paix. Le prince de la paix habite en nous. Il faut que vous réclamez, que vous exigez la paix chez vous. Et quand vous allez au travail, vous apportez la paix. Ne me dites pas, il y a des problèmes au travail. Dites, j'emmène la solution donc. Jésus vient avec moi. Hallelujah. L'église était en paix. Dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et s'accroissait comment? Par l'assistance du Saint-Esprit. Vous vous êtes débrouillés. Vous vous êtes débrouillés toutes seules, les amis, quand le Saint-Esprit voulait travailler avec vous, œuvrer avec vous. Il faut qu'on arrête d'essayer de faire les choses sans l'assistance du Saint-Esprit. Mais il s'intéresse avec ma comptabilité, bien sûr! Si ça vous concerne, ça lui concerne. Mais il s'intéresse avec mes difficultés légales, bien sûr, avec les problèmes familiaux, bien sûr. Il ne veut pas que nous perdons notre temps. Demandons, vous savez, passer 15 minutes, une demi-heure, une heure dans la prière, peut-être vous gagnez des heures et des heures. Arrêtez de faire des choses seules. Hallelujah. Actes 12, 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et le nombre de disciples augmentait. Oh, hallelujah. Le nombre de disciples, des hommes et des femmes engagés, les hommes et les femmes qui voulaient servir le Seigneur, les hommes et les femmes qui voulaient vivre pour Dieu, les hommes et les femmes qui voulaient être un exemple dans la société, augmentait. Oui, hallelujah. Merci, Seigneur. Comment c'est possible? Matthieu 6, 33, on revient là. Cherchez, je cherche à grandir, et vous? Il dit, cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données, ouais, par-dessus. Il faut que nous donnions première place à Dieu dans notre vie. Il ne peut pas accepter une deuxième place, ce n'est pas possible. Il a première place, aucune place. Donne à Dieu la première place dans votre vie. Je veux vite, et je termine. Voyez, on a donné 5 choses pour grandir quoi spirituellement, selon Josué 1.8 et Romains 8, 14 et 16. Voyez, je ne vais pas expliquer, vous pouvez écouter les messages auparavant, mais pour grandir, il faut faire 5 choses. Il faut parler la parole. Dis avec moi, parler la parole. Il faut méditer la parole. Il faut mettre la parole en pratique. Il faut laisser primer la parole. Et il faut obéir à la voix de votre esprit. C'est simple, John. Ça prend du temps. Ça exige de l'effort. Ça exige l'assistance du Saint-Esprit. Mais je vous promets, n'importe qui suit ces 5 choses vont voir leur vie, leur famille, leurs affaires totalement et complètement transformées. Parce qu'on devient adulte en mettant ces choses en pratique. Je vous demande à vous lever. On va prier. Hallelujah. Et je sais que je vous ai remué. Je suis remué. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Seigneur, bon, est-ce que Jésus est premier dans votre vie? Seulement vous pouvez répondre à cela. Si vous êtes refroidi, si vous êtes ralenti dans votre vie spirituelle, c'est l'heure de vous remettre pas à pas avec le Seigneur. C'est l'heure de revenir au Seigneur. Nous ne pouvons pas vivre dans le péché et attendre les bénédictions de Dieu. Nous ne pouvons pas donner place au diable pendant la semaine et attendre que Dieu nous bénisse le dimanche. Il faut que vous appreniez à donner place à Dieu tous les jours. On a une déclaration de foi qu'on aime faire. Peut-être vous n'avez jamais invité Jésus d'entrer dans votre vie. Vous pouvez le faire ce matin. Ou peut-être vous avez besoin de revenir à Dieu. Faites cette déclaration avec moi. Dis après moi, je crois que Jésus est mort à ma place. Je crois qu'il a payé pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité le troisième jour. Et je fais de Jésus le Seigneur et Sauveur personnel. Je suis maintenant enfant de Dieu et j'ai la vie éternelle. Je crois et je suis sauvé. On va avoir un moment de prière. L'équipe de louange va nous amener dans la présence de Dieu. Mais si vous avez besoin de prière, vous pouvez avancer. On va prier avec vous. Les membres de l'équipe pastorale vont venir. Hallelujah. Si vous venez de faire cette prière pour la première fois, Nathalie ou Gérald, venez être ici. Ils sont ravis de vous recevoir. Priez avec vous. Amen. Si vous venez de faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur, vous pouvez venir les voir. Si vous avez besoin de la prière pour la santé, amen. Si vous avez besoin de prière dans la finance, viens et vous annoncez ce que vous voulez et on va prier, on va s'accorder avec vous. Une chose que j'ai dit hier soir, et ça revient dans mon esprit, chacun de vous a besoin d'apprendre à prier. Parce que l'homme qui ne sait pas prier, oui, il est comme paralysé. Physiquement, spirituellement, vous êtes paralysé. Et on apprend à prier, oui, en priant avec les autres. Oui, on a une école de prière le mardi soir. Oui, il y a la prière le dimanche matin. Mais vous devrez avoir un partenaire de prière ou vous devez être dans un triplé de prière. C'est quelque chose que vous organisez pour vous-même ou vous pouvez appeler un frère, une sœur. Si vous êtes femme, appelez une sœur. Et dites, est-ce que vous voulez prier avec moi? Vous pouvez prier par téléphone ou vous rencontrez pendant une demi-heure et vous priez. Mais ne soyez pas seul. J'ai mon partenaire de prière. Oui, pour nous qui sommes mariés, oui, et je vous encourage tous les mariés, priez avec votre conjoint. Oui, mais tous qui sont célibataires, ne faites pas l'excuse. Ah, mais mon mari, j'ai pas un mari encore, j'ai pas une femme. Oui, mon mari ne veut pas prier avec. Demandez à une sœur, demandez à un frère. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Et on va gagner les choses dans la prière. Amen.